I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Maxime Dupuis et aujourd'hui je suis avec Cyril Morin et vous savez quoi ? Eh ben j'ai rien écrit, j'ai pas fait d'intro, voilà.
Comme c'est, voilà la non, mais on sent, c'est la dernière Maxime, alors là il est déjà en vacances Maxime.
Comme c'était la dernière de la saison, je me suis dit on va faire quelque chose un peu, vous savez, à la mode c'est d'être disruptif un peu, de changer les méthodes. Et puis il y a des personnes qui nous ont dit ouais vos intros c'est long etc. Donc j'ai eu envie aussi d'être sympa et de faire plaisir un peu à ceux qui n'aiment pas nos intros, qui n'aiment pas ce qu'on raconte, parce que vous le savez, on est capable de parler pendant 5, 6, 7 minutes de tout et de rien, de bouffe, des soucis gastriques de chacun, des voyages, des yaourts, des saucisses, tout ce que vous voulez, saucisses végétales, merguez végétales. D'ailleurs, merci Cyril, parce que tu m'as fait découvrir les merguez végétales et j'en ai encore mangé hier et c'est très bon, je dois avouer. Je ne suis pas prêt d'abandonner la merguez classique, mais c'est plutôt pas mal, texture... étonnante.
Exactement.
Goût pas trop mal. Alors, évidemment, sur l'échelle de 1 à 10, j'entends les puristes, je le mettrai pas. Si la merguez est à 10, la merguez végétale, elle doit être autour de 5 ou 6. Mais quand même, je dois avouer que j'aime bien. Et maintenant, tous les samedis, quand je vais faire mes courses, je passe par le rayon sur... C'est pas frais. Enfin, si, c'est frais. Ouais, je regarde, ouais. Tac, 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 et je prends mes deux petites merguez végétales, voilà.
Ce que j'aime bien, Maxime, c'est que quand on décide d'improviser une intro, ouais, finalement, on arrive toujours sur le sujet de la bouffe. Parce que moi, j'allais parler du flan que tu avais ramené cette semaine. Donc, voilà,
ah oui,
vous l'avez compris, ça a beau être la dernière du FC Stream Team, on ne change pas une équipe qui gagne, puisque bah, on parle toujours de nourriture. Mais on parle quand même un petit peu foot.
Ouais, mais j'ai quand même envie de dire quelque chose sur le flan.
Ah.
Parce que, on ne va pas vous dire s'il était bon, s'il était mauvais là, mais j'ai quand même appris cette semaine qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui n'aimaient pas le flan.
Ça, c'est le vrai drame de la société.
Ouais. Et que souvent, les gens qui n'aiment pas le flan n'aiment pas le riz au lait non plus.
Mais alors, moi, j'aime pas le riz au lait, mais j'adore le flan.
Ah, bah ça, c'est bien.
Voilà, il faut tout pour faire un monde, Maxime. Et... ouais.
Mais le flan, c'est formidable. Je comprends pas. Alors, vraiment, c'est le truc le plus simple et le meilleur du monde. Je comprends pas qu'on n'aime pas le flan. Vraiment. Alors, un flan raté, je dis pas, mais un bon flan, c'est le paradis.
Voilà, c'était le coup de gueule de Maxime Etchebest Dupuis. Ouais. Avant de passer donc à ce dernier numéro du FC Stream Team, disponible évidemment en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et puis, si vous voulez voir Maxime avant ses vacances, il faut venir sur eurosport.fr et vous pourrez faire le comparatif bronzage,
ouais,
qui reviendra. A priori, ce sera la même chose.
Ouais, voilà. Ouais, y a des chances, ça soit pareil. Hein.
De quoi parlons-nous, Maxime, aujourd'hui ?
Eh ben on va finir en parlant du mercato. Alors aujourd'hui, en plus, c'est une émission un peu spéciale parce qu'on vous a fait 4 sujets. D'habitude, ouais, on en fait que 3 et on en avait un quatrième qui nous tenait à cœur. Donc, on s'est dit qu'on allait le faire. On va commencer par le Paris Saint-Germain et de la tournure que prend son recrutement. C'est-à-dire que dans la foulée de l'interview donnée par Nasser Al-Khelaifi dans la semaine aux Parisiens, où il expliquait « fini les paillettes, fini le bling-bling », moi, on a l'impression que le PSG se tourne vraiment, 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 vraiment vers la Ligue 1, ce qu'il n'a pas su faire sur les 5 dernières années après Kylian Mbappé. Et on va se poser la question du bah, est-ce que c'est pas un peu too much ? Est-ce que c'est de l'ordre du symbole ou est-ce qu'il y a une vraie logique sportive derrière ça ? Ce sera le premier sujet.
Le deuxième sujet, Maxime, on reviendra sur la semaine riche en émotions vécues par l'Olympique Lyonnais, avec notamment l'arrivée de John Textor, le nouvel actionnaire majoritaire de l'OL, et cette conférence de presse. Tout simplement, est-ce que l'OL va passer dans une nouvelle dimension et à quoi faut-il s'attendre pour ce mercato d'été, sachant que près de 90 millions d'euros vont être injectés dans le budget mercato de Lyon.
Alors là, on ira un peu plus à l'ouest, mais un cran en dessous. On va parler de Saint-Etienne et des sanctions qui sont tombées sur la SSE jeudi soir. En gros, c'est 3 points de moins plus 3 avec sursis et 4 matchs à huis clos ferme. Plus 2 avec sursis, c'est lié évidemment au débordement du barrage retour face à Auxerre. On aura Pierre Barthélémy qui est avocat, qui est spécialiste du cas des supporters, qui viendra nous décrypter un peu cette sanction parce que pour être tout à fait honnête, moi j'ai l'impression qu'elle est assez. Elle aurait pu être plus lourde, on va dire. Bah, vous verrez qu'il n'est pas exactement de cet avis-là, donc ce sera plutôt intéressant à suivre. Ce sera la troisième partie de l'émission.
Et on terminera, Maxime, avec un sujet qui te tient à cœur. C'est la dernière du FC Stream Team pour cette saison 2021-2022, mais on se penche évidemment sur la saison 2022-2023 avec un objectif en tête, la Coupe du Monde, et la décision d'élargir les listes de manière officielle à 26 joueurs. Est-ce qu'une liste à 26, c'est un avantage pour les Bleus? Et quel défi pour Didier Deschamps, pardon?
Voilà, t'as tout dit. Donc on va démarrer par le premier sujet, le Paris Saint-Germain, donc qui n'a toujours pas, qui a un entraîneur qui s'appelle Mauricio Pochettino, qui a priori ne le sera plus pour très longtemps. Ça se joue autour du chèque et de la somme que le PSG est d'accord pour lui donner à lui et à son staff. Galtier doit arriver en direction de Nice. Galtier qui fera le duo avec Campos, qui est lui un rôle de conseiller football, qui n'est pas directeur sportif, mais conseiller football. Et ce PSG-là a pris une tournure très Ligue 1, j'allais dire très lilloise, mais c'est très Ligue 1. Le recrutement qui doit suivre doit aussi être très Ligue 1. Je voudrais savoir déjà ce que tu penses de tout ça, Cyril. Est-ce que le PSG n'y va pas un peu trop dans le local cette fois?
En fait, c'est particulier parce que c'est plus dans les pistes, on voit beaucoup de noms qui émergent en Ligue 1. En revanche, les joueurs les plus proches du Paris Saint-Germain à l'heure où l'on parle, Maxime, c'est Skriniar, défenseur central de l'Inter Milan, et c'est Vitinha qui viendrait du FC Porto. Moi, ce que j'aime bien dans la logique, et c'est ce qu'on expliquait dans Mercredi Mercato avec Julien, c'est que dans chaque liste, il y a un petit peu de tout. Il y a des joueurs comme Renato Sanchez, comme Sven Botman, qui sont plus amenés à être des joueurs de complément, qui viendraient renforcer l'équipe première, mais surtout la rotation et faire un groupe compétitif, même s'il y a des absents. Pour moi, c'est cette logique-là. Il y a la logique des jeunes prospects, et là, pour moi, ça dépasse la Ligue 1. Ekitike, Thuram, Malo Gusto, ok, ils viennent de Ligue 1, mais c'est aussi parce que la Ligue 1 est le plus gros pourvoyeur de talents européens. Et en fond, ces joueurs-là, notamment, je pense à Ekitike, ils sont aussi sur les tablettes des plus grands clubs européens, parce qu'un grand club aujourd'hui doit aussi s'intéresser à ces profils-là. Finalement, celui qui me surprend presque le plus, ce serait Seko Fofana. Dernière piste confirmée par l'équipe ce vendredi, parce qu'il colle pas trop dans les cases qu'on vient de dicter. Il a 27 ans, donc paradoxalement, il est plus si jeune que ça. Il a un parcours qui est très atypique. Sportivement, il pourrait apporter beaucoup, moi je pense, mais c'est ni un joueur de complément, ni un titulaire indiscutable. Cette logique-là, moi, je l'ai pour Malo Gusto, Kefren Thuram, Renato Sanchez, Sven Botman, voire Ekitike. Je la comprends un tout petit peu moins pour Seko Fofana, encore qu'il y a des arguments quand même assez solides pour sa candidature au milieu de terrain.
Ouais, alors je crois savoir que Fofana plaît beaucoup aussi au clan Mbappé.
Tout à fait.
Ce qui laisserait entendre aussi, la prise de pouvoir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, mais je pense que le poids accru, on va dire, de Kylian Mbappé, et puis c'est bien normal, puisqu'il est resté, entre guillemets, c'est pas pour rien, c'est pas gratuit, je parle pas du salaire évidemment, mais de tout ce qu'il y a autour. En fait, ce qui est marrant, c'est ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression que les pistes à l'étranger se débloquent beaucoup plus vite pour le Paris Saint-Germain. Et je pense que ce n'est pas une question de savoir-faire. Je pense que le PSG est peut-être, et c'est des deux côtés, vous allez voir, que le PSG est peut-être plus enclin à mettre assez cher sur des joueurs étrangers qui viennent de l'étranger, parce qu'il y a le côté prestige, etc. C'est Porto, c'est l'Inter Milan. Et qu'en France, bah, ils attendent peut-être que ça coûte un peu moins cher. Or, bah, les clubs français, eux, sont amenés aussi à dire « Bah non, mais nous, ça va coûter. Seko Fofana, 40 millions. Ouais. Il est très bon. Mais 40 millions, je ne suis même pas sûr qu'un club anglais… » Parce que Seko Fofana, il peut avoir un peu le profil du genre de joueur qui explose et qui va faire le bonheur d'un club du milieu de tableau anglais. C'est vraiment le type de joueur qu'on voit bien. Bah, ça part à 25 millions, pas à 40. Donc je pense aussi qu'il va y avoir une adéquation à trouver entre les besoins du PSG. Par exemple, Thuram à 20 millions, ça ne me choque pas tant que ça. Et Kitiki à 40, ça ne me choque pas non plus, même si je pense que je ne suis pas sûr qu'il partirait aussi cher en Angleterre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a pour l'instant une adéquation et peut-être une habitude à reprendre pour le PSG, justement, parce que c'est un marché finalement qui est tout proche, mais qui n'est pas tellement connu. Après, pour ce qui est du rôle de ces joueurs dans l'équipe, moi, j'ai envie de dire que s'ils viennent juste pour être du complément, c'est pas bien. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que le PSG, finalement, a laissé les clés aux mêmes. Ceux qui n'y arrivent pas, tous les ans, à gagner la Ligue des Champions. je fais pas une fixette sur Marco Verratti, je sais qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs avis sur lui. Moi, je pense que c'est un joueur qui plafonne, qui peut être formidable, mais qui plafonnera toujours et qui n'arrivera jamais au niveau escompté ou imaginé. Donc, à un moment, laisser les clés à ces joueurs-là et de dire on a pris ces mecs-là pour les mettre sur le banc ou faire du complément, je pense que c'est pas une bonne idée. Et surtout, si le PSG veut marquer le coup, faut dire nous, on a pris ces joueurs-là, un joueur comme Fofana ou un autre, pour qu'il fasse vraiment partie du projet, mais du parti du projet en première ligne. Et c'est vrai que c'est là peut-être où il y a l'achoppement. Et je rajouterai un truc sur la constitution de l'effectif. En fait, je pense que c'est bien, parce qu'en fait, il y a déjà, on entend des voix qui disent « Oui, mais ça y est, Galtier, ça fait pas rêver, Galtier, Zidane, etc. La Ligue 1, nanana, voilà. » Tout ce qu'on reprochait au PSG, que le PSG est en train de faire, on va maintenant dire « Ah ouais, mais là, ça va trop loin. » Alors peut-être. Peut-être, mais je pense que d'abord, il y a un problème qui est un peu inhérent et qui est un peu latent, on va dire. C'est le problème du loft, entre guillemets. C'est que le PSG, c'est bien d'acheter, mais là, s'ils veulent vraiment changer de direction et donner ce pouvoir à d'autres joueurs, il faut arriver à vendre. Et pour l'instant, bah, j'ai l'impression, à part peut-être Areola qui va partir, ça reste compliqué. Et je pense aussi que les prix demandés par le PSG sont un peu costauds. Alors là, je voyais Dina et Mbembe. 15 millions. Ça me paraît un peu beaucoup quand même. Voilà. Donc s'ils ont la même logique pour tous les joueurs, j'ai peur que ce soit compliqué. Et le fait de ramener des joueurs de Ligue 1 qui seraient un peu de complément et de garder les autres joueurs qui étaient même plus de complément, ça soit un peu une usine à gaz, ce Paris Saint-Germain. Non, alors,
ça, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et ça a été vraiment le gros problème du Paris Saint-Germain à mes yeux cette année. C'est vraiment le côté d'avoir une équipe type. Mais par contre, derrière, quand il fallait faire appel à d'autres, personne n'était vraiment au niveau. Ouais. Moi, ces joueurs, un joueur comme Renato Sanchez, je ne sais pas s'il venait à signer au Paris Saint-Germain, s'il serait titulaire indiscutable. C'est ça que je veux dire. Et de toute façon, Renato Sanchez ne peut pas être la tête de proue de ton projet quand il y a une attaque, Kylian Mbappé, Neymar et Messi. Ça, on sera d'accord là-dessus, Maxime. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Paris se penche sur des cas qui... On s'est amusé à regarder un peu les pistes chaudes, ou en tout cas les pistes que Paris avait vraiment exploré depuis 2017 en Ligue 1. Donc il y a eu la piste Kylian Mbappé, mais Mbappé, finalement, c'est un petit peu la même logique que Tchouaméni. Il dépassait à l'époque de leur transfert déjà le cadre Ligue 1. C'était surtout des énormes espoirs européens et que donc tous les plus gros clubs étaient dessus. Mais l'exemple de Fabinho est pour moi ce que Paris aurait pu faire. Et ce que fait très bien le Bayern Munich notamment, c'est d'aller chercher chaque année les meilleurs joueurs au poste clé qui jouent dans deux clubs dans son championnat. Donc Fabinho, pour moi, c'est un énorme manque du Paris Saint-Germain et un manque que Paris continue de avoir du mal à le combler des années plus tard. Kamavinga, pareil pour moi. Alors c'était plutôt dans la même catégorie que Tchouaméni et Mbappé, mais c'est quand même un joueur qui n'aurait pas dû normalement filer entre les doigts du Paris Saint-Germain. Là, à part pour Hugo Ekitike, on n'est pas exactement dans ces profils-là. Mais il y a un mot qui est important quand on revient sur le nom Seko Fofana. Il y a un nombre surtout qui est important. Je crois qu'il a joué 38 matchs de Ligue 1 cette saison. Ça vous dit tout de sa fiabilité physique. Et quand on sait ce qui se passe au Paris Saint-Germain, au milieu de terrain avec Marco Verratti, mais également un peu plus haut avec Neymar, c'est aussi ça qu'il a manqué à Paris, c'est peut-être des joueurs fiables toute l'année, tout au long de l'année. Alors des blessures, voilà, c'est inhérent à des carrières, mais quand elles deviennent trop récurrentes, c'est aussi un petit souci de gestion physique et que ces joueurs-là peuvent répondre à ça et être, quand on fait appel à eux, on est sûr qu'ils répondront présent. Quoi.
Ça fait la boucle avec Verratti, qui n'est pas le type le plus fiable physiquement. Ouais. Et il faut quasiment acheter un joueur qui est capable de jouer la moitié des matchs si Verratti ne change pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, un axe moins complément et plus de premier niveau. Il y a un nom qui était dans la liste, c'est Tanguy Ndombele. Ouais. Et je pense que c'est drôle parce que c'est peut-être là, souvenez-vous à l'époque, Jean-Michel Aulas, dans la presse, il dit carrément « Ah mais lui, il serait bien en PSG, il lui mettait le prix, 50 millions, il mettait le prix, il n'y a pas de problème ». C'était une attitude un peu particulière parce qu'il allait vendre son joueur. Mais le PSG n'a jamais vraiment regardé. Ouais. Alors que finalement, je pense qu'aujourd'hui, on serait dans cette situation-là. Le PSG regarderait sûrement plus Tanguy Ndombele pour le faire venir au club parce que lui, il serait vraiment dans le, j'allais dire, au moment où il part de Lyon, on se dit que voilà, il peut aller sur le plancher supérieur et peut-être réussir des choses dans un club de la taille du Paris Saint-Germain. Autre chose qui est, non pas marrant, mais Je crois que le PSG a une enveloppe de 90 millions en gros.
80, ouais. 80, 100. Qui a déjà été amputé avec l'arrivée du latéral gauche de Nuno Mendes.
Voilà. Or, quand je regarde les pistes, et si, alors je ne suis pas très bon en mathématiques, mais je sais que 40 plus 15 plus 25 plus 20 plus 40 plus 40 et Skriniar, je ne sais pas, 50, 60, ça dépasse un peu 90 ou 100.
Bien sûr. Mais Maxime, de toute façon, si Skriniar vient, oui, il y a les ventes, voilà. Mais malgré tout, si Skriniar vient, Botman ne viendra pas. C'est aussi ça la logique. C'est oui. En gros, il y a des pistes A, un peu premium, notamment Skriniar, notamment Vitinha, des pistes B comme Botman, Sanchez, et des pistes C qui répondent plus à un besoin de préparer l'avenir, tous ces jeunes dont on a parlé.
Skriniar plus Vitinha, on est à plus de 100 millions déjà.
On est à 110 millions, ouais.
Voilà.
Oui, bah oui, il va falloir vendre, on est d'accord.
Ouais, il va falloir, on ne sait pas. Mais en tout cas, mais je pense que de toute façon, là on plaisante avec ça, mais le PSG a autant besoin de vendre pour ses finances que pour son club, tout simplement, ouais. Pour sa logique de groupe, parce que c'est pas bon d'avoir un effectif qui est déjà surpeuplé, et surtout avec des joueurs qui, c'est quand même un cas, des cas rares, qui ne servent à rien. C'est-à-dire que les types sont là parce qu'ils touchent le salaire, parce qu'ils sont obligés d'être là. Mais les types ne servent à rien. Et ça, c'est pas possible parce que ça dit aussi quelque chose de votre culture sportive et de votre culture club, tout simplement.
Dernier petit mot sur le Paris Saint-Germain et sur pourquoi Paris ne vise plus forcément des étoiles. Il faut aussi se mettre dans la position de Campos quand il est arrivé et qu'il a vu l'effectif. Dans l'équipe type pure du Paris Saint-Germain, il y a combien de places à prendre potentiellement ? Potentiellement celle de Presnel Kimpembe ? Mais Hakimi fait partie du projet. Marquinhos, c'est le capitaine. Nuno Mendes a montré des belles choses. Verratti, qu'on le veuille ou non, fait partie du projet. Donc, il reste une place à côté de Marco Verratti, peut-être au milieu de terrain. Les trois de devant, bon, bah, c'est dur de leur prendre leur place, a priori. Donc, finalement, les places pour l'équipe type, en tout cas, elles sont finalement assez rares. Donc, ça explique aussi ce mercato made in Ligue 1 ou ce mercato plus de compléments que de superstars, parce qu'on rappellera quand même que la saison passée, Paris avait pris quasiment que des superstars et que bah, ça n'a pas été une réussite complète.
Mais le PSG n'a jamais manqué de talent, c'est ça le problème. C'est que finalement, et il se porterait sûrement un peu mieux avec un tout petit peu moins de talent pur. Prenez le cas Neymar. Neymar, on le met dans les trois de devant, mais bon, est-ce que le PSG ne serait pas mieux porté l'année dernière avec Nkunku qu'avec Neymar ? La réponse est oui, c'est moins clinquant. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin aussi que ces joueurs-là viennent un peu leur mordre les mollets pour remettre un peu les choses en place au Paris Saint-Germain. Et si ce n'est pas les joueurs, a priori, ce sera Galtier et Luis Campos. Et d'ailleurs, j'ai hâte de suivre ça.
J'aime bien parce qu'on avait dit qu'on ferait une émission en quatre parties où on serait court. Ouais. Là, je t'ai senti, on allait venir sur Neymar. On pouvait partir sur une demi-heure de discussion. Donc, on va s'arrêter là pour
c'est
le Paris
passion,
Saint-Germain,
Neymar. Maxime. Ça se trouve, il ne sera plus là quand on reviendra à la rentrée.
Ah, bah, ça, c'est un autre débat. On en parlera très probablement dans Mercredi Mercato, mais ça va être compliqué de vendre le Brésilien. On va passer, Maxime, au deuxième sujet. Et un autre club français qui, lui aussi, espère désormais gagner la Ligue des Champions si on reprend les déclarations de John Textor, le nouvel actionnaire de l'Olympique Lyonnais. Bah, c'est Lyon. Lyon qui donc entre dans une nouvelle ère avec ce nouvel actionnaire majoritaire américain. Alors, on rappelle ici déjà que Jean-Michel Aulas ne part pas. Jean-Michel Aulas va garder et assurer la gouvernance, je crois que c'est pendant 3 ans déjà. Et John Textor, pendant sa conférence de presse, il a insisté en disant « Je suis ici en tant que ressource, c'est-à-dire je suis là en appui notamment pour apporter des fonds, mais n'imaginez pas que je vais prendre tout le pouvoir et devenir président de l'Olympique Lyonnais. » On n'est pas obligé de le croire sur parole, il n'empêche. Il a rappelé sa façon de voir les choses différait assez nettement de ce qui se fait au Paris Saint-Germain, notamment. Lui, il imagine plutôt un projet transverse avec plusieurs clubs, notamment Botafogo. Donc voilà, est-ce que l'OL va passer dans une nouvelle dimension, Maxime ? Bah, c'est la grande question que tout le monde se pose un petit peu.
Bah, c'est tout le mal qu'on souhaite aux Lyonnais. Déjà, première chose, derrière le PSG, c'est évidemment le meilleur club à acheter en France au niveau de la structure. Parce que c'est le club le mieux structuré, tout simplement. Et il est même mieux structuré aujourd'hui que le PSG ne l'était quand QSI est arrivé. Parce que l'OL a tout, voilà, tout simplement. On parle du formidable outil, mais c'est exactement ça. Il y a tout ce qu'il faut à Lyon. Et il y a aussi plein de choses qui, quand on compare aussi avec l'autre grand club dont on parle souvent dans les fantasmes des ventes, c'est l'OM. Ah, voilà, il n'y a pas la même structure. Et c'est vrai que Lyon, je pense, pour un repreneur de surcroît américain, c'est plutôt rassurant parce que tout est bien calé, tout est bien fait. tu l'as dit, Jean-Michel Aulas va rester président. Ça va être, c'est une forme de présidence déléguée. 3 ans, on verra. Je pense que tout jouera sur l'avancement. C'est-à-dire que si Lyon repart de l'avant, il n'y aura pas de problème. Sinon, je pense que Textor, il a beau dire qu'il veut mettre que de la ressource, il mettra des hommes à lui parce que c'est dans l'ordre des choses. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir les ambitions. Alors, il a parlé du Paris Saint-Germain. Il a vite vu qu'il avait fait une connerie, que ce n'était pas la peine, que ça ne servait pas à grand-chose. Surtout la pique. Alors, je pense que ça fait toujours plaisir aux supporters. Mais c'est marrant, ça aurait peut-être fait plus plaisir aux supporters marseillais pour le coup. Mais en tout cas, il s'est mis dans le moule. Voilà, il a dit ça. Je pense que c'était un peu une bêtise, mais voilà. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, bon, ça on verra. Mais c'est lié à sa phrase. Il dit « Je suis ici comme une ressource ». Alors, la ressource... Ça me fait penser à l'arrivée de Pathé à Lyon en 99, où Pathé arrive et donne 100 millions de francs. Alors 100 millions de francs, aujourd'hui, je vais vous le faire à 15 millions d'euros en gros. Oui, c'est pas les mêmes sommes, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Et directement, ils avaient marqué le coup en achetant Sonny Anderson. Donc déjà, et Lyon avait spectaculairement changé de dimension. Parce que là, ça allait devenir le grand club des années 2000. Et acheter Sonny Anderson à l'époque, le faire revenir en France, c'était plutôt costaud. Lui, il vient avec un budget de 86 millions pour le mercato. Ce qui n'est pas rien, il faut le dire. Si c'est pour un mercato, c'est plutôt pas mal. Surtout que le Lyon a déjà commencé son mercato. C'est plutôt pas mal. Est-ce que ça suffit à gagner la Ligue des Champions? Non, évidemment. Mais ça peut suffire à envoyer quelques signaux. Et pourquoi pas, dans ces 86 millions, tenter d'avoir un joueur symbole. Voilà. Ça ne sera pas un très grand joueur, parce que s'il donne 50 millions, il n'y aura pas. Mais au moins de relancer la machine et d'avoir quelque chose. En fait, c'est un cercle vertueux à relancer à Lyon. Parce qu'il y a une académie, il en a parlé de l'académie, potentiellement il y a ce qu'il faut à Lyon. Ces dernières années, ça ne marche pas pour diverses raisons, et notamment je pense sur des joueurs qui sont restés trop longtemps, ou une grinta qui s'est évaporée, mais Lyon a ce qu'il faut. Ce qui est rassurant aussi, c'est que 86 millions, c'est mieux de le dire comme ça, parce que quand McCourt est arrivé à l'OM, il a dit « je vais mettre 200 millions sur 4 ans ». Or, dès le premier jour, on savait que 200 millions sur 4 ans, c'était évidemment trop peu. Là, il a dit « je mets 86 millions », il n'est pas en train de dire ce qu'il mettra derrière, mais on sait aussi que c'est un entrepreneur américain. Quand il parle des clubs État, ça veut dire « ben non, mais moi, je ne suis pas là pour perdre de l'argent ». Donc, il faudra aussi que tout marche, tout fonctionne, et Lyon est quand même structuré pour ça. Aller gagner la Ligue des Champions, je ne sais pas, se retrouver régulièrement sur le podium, normalement, ça doit le faire.
Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, en fait, sur la pique, sur le Paris Saint-Germain. Effectivement, c'est un peu gratuit, mais surtout, c'est un peu se tromper d'ennemi. L'ennemi de l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, ce n'est pas le Paris Saint-Germain, c'est l'Olympique de Marseille, c'est potentiellement Nice. C'est ces projets-là, ces projets qui visent chaque saison la qualification en Ligue des Champions. Et avec Textor, Lyon doit avoir la volonté d'être l'empêcheur de tourner en rond du Paris Saint-Germain, d'être deuxième quasi systématiquement, et les années où Paris se rate, comme ça s'est vu avec Lille, bah, être là quand il le faut. Ce qui est intéressant, tu as parlé de ces 86 millions d'euros, c'est qu'on est à peine au mois de juillet, et pour le coup, le mercato lyonnais est déjà hyper lisible, ouais. Hyper ambitieux, c'est le plus avancé de Ligue 1. Alors, tout le monde n'a pas encore avancé, mais quand vous récupérez Alexandre Lacazette libre, et tu parlais de symbole, je pense que ce sera surtout lui la tête de gondole du projet. Quand vous réussissez à prolonger Cacré et que vous êtes en passe de le faire avec Cherki, que vous prenez un jeune comme Lépénan qui est un peu dans une logique de peut-être que dans 3 ans, Chelsea va venir l'arracher pour 70 millions si tout se passe bien. Et qu'en plus de ça, vous êtes en passe d'acquérir presque définitivement Tété pour les raisons qu'on connaît. Votre mercato est bien avancé. Vous commencez à cocher toutes les cases que réclamait Peter Bosz. Donc moi, ces 86 millions d'euros, ils sont rassurants, pas forcément même sur le côté des achats, parce qu'il y en aura d'autres, mais ça dit aussi que Lyon n'est plus forcément forcé de vendre ses meilleurs joueurs. Ouais. Je pense à un Bruno Guimaraes. Si Lyon avait eu cette assurance-là à l'hiver dernier, peut-être que Bruno Guimaraes n'aurait pas quitté l'Olympique Lyonnais et serait resté à Lyon. Peut-être que cet argent-là va pouvoir servir à résister aux attaques diverses et variées que pourrait recevoir l'Olympique Lyonnais concernant Lucas Paqueta, et se dire que l'année prochaine, en fait, à Lyon, le numéro 10 c'est Paqueta et le numéro 9 c'est Alexandre Lacazette, et que dans ces conditions-là, il y a des choses qui vont permettre, a priori sur le papier, c'est plutôt cohérent. Donc je trouve que c'est un matelas à la fois rassurant dans l'ambition de conquête, mais aussi dans la défense un petit peu des intérêts lyonnais, qui depuis plusieurs années, parce que c'est le modèle lyonnais, est obligé de vendre ses meilleurs joueurs. Peut-être que là, Lyon va pouvoir se dire « Écoutez, Paqueta, nous, on est persuadé qu'on peut mieux le valoriser dans un an et qu'on a besoin de lui pour reconquérir la Ligue des Champions. » Donc, Pour l'instant, je trouve ça assez tentant. Je suis d'accord avec toi, gagner la Ligue des Champions, on en reparlera dans 5 ans parce que c'est pas en 2022 que Lyon est en capacité de gagner la Ligue des Champions. Il en est même très, 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 très loin. Mais ce qu'on a vu jusqu'à présent et la façon dont se dessine ce mercato est plutôt alléchant. J'attends de voir malgré tout l'interventionnisme ou pas de Textor. On sait qu'à Botafogo, finalement, il avait eu son mot à dire et de manière assez importante. Je pense qu'à Lyon, il faut pas tout brusquer et que s'il est venu à Lyon, c'est parce qu'il y a certaines choses qui fonctionnent et que l'organisation de Jean-Michel Aulas a beaucoup de défauts. Mais elle a aussi des qualités qu'on a pu voir sur les 30 années passées.
Non, mais il sait, de toute façon, en venant à Lyon, il sait qu'il a quelqu'un de solide à la barre qui sait faire. Voilà, il suffit de voir, encore une fois, il a dû visiter le club, voir ce qu'il y avait, et ouais. Que ça fonctionnait quand même assez bien, même si c'est un club qui décline sportivement depuis une décennie, en fait. Voilà, mais au moins, il a cette base-là, il a le savoir-faire de Jean-Michel Aulas. Il n'est pas sur un siège électable, Jean-Michel Aulas, mais c'est sûr que oui, comme tu le dis, c'est rare que... C'est un peu le système du pollueur-payeur, mais c'est un peu ça. Si vous payez, vous avez votre mot à dire, et vous allez dire les choses quand elles ne vont pas. Donc on peut imaginer que si ça ne va pas, qu'il sera plus interventionniste qu'il le dit, et qu'il finira sûrement par mettre quelqu'un de son entourage à la tête du club. C'est comme ça que ça marche partout, c'est comme dans une entreprise normale. L'OL a suffisamment expliqué que c'était une entreprise, ça adviendra. Dans combien de temps, on ne sait pas, mais c'est sûr que ça adviendra. Moi, ce que j'ai hâte, en revanche, c'est de le voir tweeter, parce que déjà qu'il y avait Aulas qui tweet, lui c'est un tweeter compulsif aussi. Alors s'il tweet aussi autant que Jean-Michel Aulas, ça peut être très drôle dans les mois à venir. Voilà.
Dernière petite précision sur le cas Textor, on rappellera juste que l'OL a obtenu de sa part qu'il se retire d'un éventuel intérêt pour le FC Porto. Ouais. Et ça dit aussi ce qu'il veut faire de l'Olympique Lyonnais. Textor, il a réfléchi de manière un peu transversale avec des clubs un peu cousins en Europe, Botafogo. Donc, alors, c'est quasi sûr que dans les 5 années à venir, vous allez avoir une ruée de Brésiliens qui vont venir à Lyon, peut-être. Qui vont être prêtés, que des joueurs lyonnais vont être prêtés dans des clubs cousins, etc. Donc, on est sur une organisation à plusieurs clubs et un peu graduée avec l'Olympique Lyonnais en haut de la pyramide. Je pense que ça peut être un modèle vertueux, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le grand n'importe quoi. Mais c'est pour dire aussi, quand il s'intéressait au FC Porto, ce qu'il recherchait, lui, c'était un club qui est en capacité de jouer chaque année l'Europe, de très bien vendre chaque année aux plus grands clubs européens et peut-être sur... une, deux ou trois années, faire un gros coup en Europe, voire sur la scène nationale maintenant qu'il y a le Paris Saint-Germain. On est plus sur ce genre de projet-là que sur imaginer que Lyon va devenir Manchester City demain ou Paris Saint-Germain.
On est de toute façon sur un même calibrage, on va dire, économique de club.
Exactement.
Pas européen, sur le FC Porto a gagné 2 fois la Ligue des Champions, évidemment. Mais on est quand même sur ces clubs-là qui sont juste entre deux. Et comme tu l'as dit, quand ça rigole, peuvent réussir quelque chose de très beau sur une saison. Après avoir parlé Mercato, après avoir parlé Ligue 1, on va parler un peu justice et Ligue 2, car vous n'êtes pas sans savoir que l'AS Saint-Étienne a été sanctionné jeudi soir pour les débordements qui ont accompagné le match Saint-Étienne-Auxerre, le barrage retour. Saint-Étienne est descendu en Ligue 2 à l'issue de ce barrage et il y a eu de graves débordements à la fin du match. Vous avez sans doute vu les images d'une horde de personnes qui sont rentrées sur la pelouse, qui étaient déjà d'ailleurs au bord de la pelouse très tôt pendant la séance de tir au but et qui ont balancé des fumigènes à droite et à gauche. Et c'était quand même une situation un peu, on va dire, on va peser le mot, très dangereuse, on va dire. L'AS Saint-Étienne a été sanctionné de la manière suivante. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel lui a infligé 6 points de retrait en championnat de Ligue 2, dont 3 fermes, et 6 matchs à huis clos, dont 2 avec sursis. Alors, pour parler de ça et pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, on va accueillir Pierre Barthélémy, qui est avocat et qui est aussi spécialisé, évidemment, dans la sphère, on va dire, des supporters, et qui va éclairer notre lanterne. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Alors, moi, j'ai une première question toute bête à l'avocat. Est-ce que cette sanction vous semble équilibrée, tout simplement? Est-ce que ça vous semble lourd ou un peu faible au vu des images que l'on a vues sur le terrain ce soir-là?
Alors, c'est toujours dur d'avoir un avis précis quand on n'a pas le dossier dans les mains, évidemment. Mais les images et vidéos qu'on a pu voir étaient d'une extrême violence. C'était vraiment probablement l'incident le plus grave cette saison en Ligue 1, bien plus que ceux qui ont pu faire beaucoup plus de buzz en début de saison. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu le contre-feu de la finale de la Ligue des Champions. Et Parallèlement, il y a aussi le fait que le club Saint-Etienne a quand même en quelque sorte un casier disciplinaire. Ils ont régulièrement été fait l'objet de sanctions disciplinaires. Et il y a aussi le fait qu'il y a une démarche un peu inflationniste ou croissante des sanctions de la commission de discipline ces derniers temps, avec beaucoup plus de huis clos et des débuts de retrait de points cette saison. Donc cette décision, elle est très sévère, mais elle est en quelque sorte cohérente avec cette inflation des sanctions disciplinaires et le fait qu'on ait vu des sanctions un peu moins sévères pour des faits qui étaient moins graves.
Alors, a priori, le club aussi s'est engagé, hein, non pas à faire le ménage, mais pendant la commission de discipline, à prendre des décisions, hein, vis-à-vis des supporters. Alors moi, ce n'est que mon avis. En effet, il y a une cohérence vis-à-vis de la gradation des événements, de la gravité. Mais j'ai l'impression, à l'arrivée, alors c'est peut-être moi qui pense ça comme ça, que finalement, la commission tape un peu plus sur le club, c'est-à-dire que les 3 points, ou potentiellement les 6 points en cas de récidive de retrait, que sur les supporters, parce que finalement, 4 matchs à huis clos, bah, c'est pas grand-chose.
Alors là, je suis pas d'accord, parce que 4 matchs à huis clos, d'une part, ça tape sur des supporters innocents, c'est-à-dire, on va dire, 40 000 sur 41 000. Et ça tape très fort au porte-monnaie du club, parce que 4 matchs à huis clos, c'est plusieurs millions d'euros, notamment avec les hospitalités. Donc ça reste très fort. Après, il ne faut pas perdre de vue que la commission de discipline de la Ligue, elle n'a pas le droit de sanctionner les supporters. Elle est exclusivement compétente pour sanctionner les manquements du club à son obligation de sécurité du fait du comportement notamment de ses supporters. Donc à partir du moment où la commission de discipline avait commencé, et elle le revendiquait dans la presse, à détourner les mesures de sanction des clubs pour taper sur les supporters, elle s'égarait complètement, elle sortait de son office. Et d'ailleurs, ça a piégé la Ligue, parce que la Ligue s'est retrouvée après dans une situation où l'État lui demandait de faire le ménage, alors que ce n'est pas son travail, c'est à l'État de faire le travail d'aller interpeller les gens et de les interdire de stade. Donc là, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, ce qui est un bon point, c'est que j'ai le sentiment, dans le discours qu'on a entendu de Sébastien Deneux après la décision, c'est que il y avait une vraie volonté de se concentrer sur l'office disciplinaire, c'est-à-dire sanctionner les carences du club. Et je pense qu'il y a notamment il y a eu une prise de conscience sur le fait qu'il faut probablement revoir les dispositifs anti-intrusion au stade Geoffroy Guichard, parce qu'il y a eu trop de monde trop facilement sur le terrain, dans une année où, après les incidents de début de saison, et notamment ce qui s'est passé à Nice et à Lyon, la Ligue a voulu rappeler le caractère sacré du terrain. Et à partir du moment où on rappelle le caractère sacré du terrain, c'est normal d'être très exigeant sur le fait que le club doit faire le nécessaire, ou au moins faire le maximum pour empêcher que les supporters puissent accéder aussi facilement sur le terrain.
Moi, j'ai une question sur les sanctions. On a l'impression qu'il y a un débat qui traverse la France du football depuis des années entre les sanctions collectives et les sanctions individuelles. Pourquoi en France, on a autant de mal à sanctionner individuellement les gens, les fauteurs de troubles, et on passe systématiquement par les punitions collectives. Qu'est-ce qui fait qu'en France, ça ne marche pas?
Alors, il y a deux points, mais effectivement, c'est un point fondamental, c'est-à-dire que les sanctions collectives, on a bien vu qu'elles n'avaient aucune utilité, aucune efficacité, elles étaient illégitimes, ça mettait un peu la commission de discipline dans une crise de légitimité, et ça ne faisait pas avancer les choses sur le terrain. Et alors le premier point, c'est justement, comme la commission de discipline a ouvertement revendiqué qu'elle voulait taper sur les supporters, et la commission de discipline de la FFF l'a fait aussi, en disant que c'était de la pédagogie pour leur faire passer un message, ce qui n'est pas du tout son rôle, et ce qui n'est pas la bonne mesure, puisqu'on ne frappe pas des innocents quand on veut faire passer un message, ça a beaucoup arrangé l'État et les clubs, qui se sont dit, bon, bah voilà, la commission de discipline veut faire ce travail-là, bah, nous, on ne va pas s'embêter à aller chercher les gens individuellement, c'est beaucoup de travail. La commission de discipline, elle va, en quelque sorte, je veux dire, calmer un peu la vindicte populaire ou médiatique en prenant une sanction forte qui marque son territoire avec ses huis clos, mais ça n'arrange rien. Et dans le deuxième temps, ça a donc beaucoup arrangé l'État, parce que c'est à qui incombe cette mission quand il y a des violences, quand il y a des comportements délictueux, quand il y a des délinquants, que ce soit en concert, en manifestation, partout ailleurs. Personne ne demande au gardien de l'immeuble, au gardien de la salle de concert ou à l'association qui organisait la manifestation dans la rue pour contester telle mesure du gouvernement, d'assurer le service d'ordre et d'aller interpeller les gens et puis les empêcher de revenir aux prochaines manifestations. Donc ça n'a aucun sens de le demander dans un stade, mais aujourd'hui c'est ce que l'État fait, alors que non, il faut que l'État se donne les moyens d'aller chercher ces gens-là. Et après, le discours, on peut aussi le comprendre, c'est-à-dire que quand on parle avec des magistrats, quand on parle avec des policiers, ils disent... on a plus de dossiers qu'on a de temps, on manque de moyens cruellement. On n'arrive pas à traiter toutes les plaintes pour, enfin, toutes les enquêtes pour homicide, pour cambriolage, pour violence, pour viol. On a des plaintes pour violence sexuelle qu'on voit aujourd'hui que c'est un vrai sujet. Il y a énormément de plaintes qui ne sont jamais traitées parce qu'on manque de moyens. Donc, eux, ils disent, bah, écoutez, quelqu'un qui allait marcher sur une pelouse ou quelqu'un qui a allumé un fumigène, honnêtement, on ne va pas mettre 15 personnes à regarder 200 caméras de vidéo pour essayer de les identifier. On a vraiment autre chose à faire. Donc, c'est des sujets qui sont très importants, très graves à l'échelle du foot, mais qui sont en fait assez dérisoires, si je peux me permettre, à l'échelle de la police et de la justice en France. Donc, il y a ce double effet de la commission de discipline qui s'est un peu investie d'un rôle qu'elle n'a pas, et ensuite de l'État qui s'est défaussé sur la commission de discipline.
J'ai une dernière question avant de te laisser partir. Est-ce qu'il n'y a quand même pas eu un frémissement cette année? Parce que vu tout ce qui s'est passé cette saison, on ne va pas revenir sur tous les événements, les tristes événements, des jets de bouteilles, et notamment à Saint-Etienne et tout ça dans beaucoup d'enceintes en France. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, une prise de conscience étatique de dire il faut quand même bouger? Parce que on a de la chance, entre guillemets, ce qui s'est passé à Saint-Etienne, il n'y a pas d'accident grave, mais le jour où il y aura un accident très grave, bah, il faudra rendre des comptes.
Alors, on a tous cru qu'il y avait une prise de conscience. Quand il y a eu les réunions interministérielles, s'il y avait des conférences de presse retransmises en direct sur toutes les chaînes. Et puis, bah, il ne s'est rien passé. Rien, vraiment. Enfin, il n'y a pas plus d'interpellations qu'avant. Il n'y a pas plus d'interdiction de stade qu'avant. La seule chose qui a bougé, c'est que maintenant, la commission de discipline met des retraits de points. Mais objectivement, sur la répression, ça n'a pas avancé. On ne va pas chercher individuellement les gens. Et sur la prévention, on n'a pas cherché à réfléchir. À aucun moment, on s'est posé tous autour d'une table, au gouvernement, dans les instances, avec les supporters, pour dire, bon, bah, pourquoi est-ce que ça se passait bien avant le premier confinement et ça se passe mal au retour? Alors que tous les ingrédients, toutes les solutions, enfin, pas les solutions, mais tous les ingrédients, les indices, on les a, notamment le fait qu'on avait perdu des habitudes, il y avait des renouvellements de personnel, il y a un gros problème de recrutement et formation des stadiers et de valorisation, parce qu'ils sont sous-payés. Il y a plein d'éléments. On les a à peu près tous identifiés, mais jamais on a décidé de travailler ces sujets-là. Et d'ailleurs, ça a conduit en partie à ce qui s'est passé au Stade de France, parce qu'on a refusé de travailler ces points. Donc, la prise de conscience, on y a cru, mais en fait, au moment de passer aux actes, ça reste assez décevant.
Dernière toute petite question sur l'avenir, peut-être, et ce qui peut être amélioré. On a l'impression que on arrive un peu dans une impasse où l'État, comme tu l'as dit, ne peut pas tout faire et ne peut pas tout gérer. Est-ce qu'il y a des pistes, peut-être, que toi, tu as déjà creusées avec les supporters sur comment on pourrait résoudre un peu cette solution-là et éviter à l'avenir que les stades français subissent des huis clos systématiques à chaque fois qu'il y a des débordements, et surtout éviter les débordements, premièrement.
Et j'ajoute un truc, est-ce que le modèle anglais est transposable en France?
Alors, il y a deux volets d'action. Le premier, c'est la prévention, et c'est là qu'il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une prévention qui est un peu une sorte de prévention-répression. On interdit les déplacements de supporters, on ferme des tribunes, ouais, etc. Et donc, on ne va pas sanctionner les coupables, on n'a pas une répression dissuasive, on n'a pas une répression légitime. Et donc, tant qu'on ne va pas chercher ces personnes-là individuellement, ça n'avancera pas. Et certes, l'État, c'est énorme comme travail d'aller chercher tous les gens. Mais si déjà, au lieu d'aller en chercher que 5 par an, on allait en chercher 30 ou 40, et qu'on mettait des plaines exemplaires, ça refroidirait pas mal de monde. Et puis déjà, de toute façon, quand on est dans un pays où il y a 300 ou 400 vrais incidents sur toute une saison de Ligue 1 et 13 millions d'entrées. Et quand je dis vrais incidents, je compte tout. Hein, quelqu'un qui est interpellé en état d'ébriété, quelqu'un qui est interpellé avec des faux billets, quelqu'un qui est interpellé pour fumigène, même si, d'un point de vue juridique, hein, parce que d'un point de vue personnel, je ne pense pas que le fumigène, ça soit un problème. Mais si déjà, on va en chercher quelques-uns, si on en prend 40 sur 400, ça fait déjà 10% de risque en moins. Comment améliorer l'organisation des matchs. Et avant le premier confinement, on avait notamment arrivé à une circulaire de Laurent Nunez qui avait posé toutes les bases organisationnelles des rencontres. Et entre cette circulaire et le premier confinement, il se passe 5 mois. Il n'y a plus qu'un seul arrêté d'interdiction de déplacement de supporters, qui est d'ailleurs suspendu par le Conseil d'État, et il n'y a pas d'incident, parce qu'on avait commencé à appliquer les recettes de prévention. Il n'y a pas de miracle, hein, il faut s'y remettre sur la prévention, et puis il faut de la répression derrière, parce qu'une fois que quelqu'un a dérapé, il doit assumer. Cette personne doit assumer ses actes. Et c'est exactement ce qui se passe dans le modèle anglais. C'est pour ça qu'il y a une partie du modèle anglais qui est transposable. Pas tout, hein, parce qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement sur beaucoup de choses, mais En Angleterre, il n'y a pas de huis clos, il n'y a pas d'interdiction de déplacement, alors qu'il y a une vraie culture de déplacement avec 3, 4, 5 000 personnes qui peuvent se déplacer dans 5 stades différents le même week-end. Mais ils ont, je crois, un peu plus de 6 000 personnes interdites de stade, qu'en France, on en a 90. Si en France, on avait ne serait-ce que, allez, 600 interdits de stade, je pense qu'on aurait déjà résolu une grande partie du problème. Et il faut aller cibler les bonnes personnes, il faut aller cibler les personnes qui se rendent coupables de violence. Il faut aller cibler les personnes, comme on a vu à Lorient, qui viennent avec un drapeau clairement à signification discriminatoire. Ces gens-là, il faut aller les chercher tout de suite. Et là, à Lorient, je suis désolé, mais il y a 30 ou 40 policiers dans le stade, le drapeau, il reste 45 minutes et il n'y a pas un seul policier qui agit.
Mais
Il
surtout,
va peut-être. Enfin,
ouais, surtout qu'il y a les photos, on voit très bien les personnes, c'est pas très visible, on va dire.
Et ce qui est en plus très grave, c'est ce qui s'est passé à Lens-Lille. C'est ce qu'il aurait pu se passer, c'est que des supporters d'une autre tribune décident de traverser la pelouse pour aller arracher le drapeau, parce que la police ne le faisait pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Lens-Lille, où il y a des gens dans le parquage lillois, qui n'étaient pas forcément des supporters lillois d'ailleurs, qui ont canardé les familles dans la tribune Trenin pendant toute la première mi-temps. Et il n'y a aucune réaction des stadiers ou de la police. Et donc les ultras de la marée qui descendent à la mi-temps pour aller faire le travail de la police. Et au final, ça devient un débordement de supporters. C'est les supporters lensois qui ont trinqué. Il y a eu énormément d'interdictions de stade côté supporters lensois. Alors qu'une réaction immédiate de la police aurait permis d'éviter tout ça. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire, à penser. Et donc, du coup, le modèle anglais, c'est une bonne chose, mais on est loin de l'avoir analysé.
On va pas terminer sur un message optimiste, mais au moins il y a des solutions, elles existent, donc en espérant que chacun prenne ses responsabilités à l'avenir. Merci Pierre de nous avoir accompagnés
Merci
et pour
beaucoup.
cet éclairage. Et puis nous c'est la dernière de l'année, donc on a envie de te souhaiter bonnes vacances si tu en prends d'ici peu. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Salut. Au revoir. Eh bien, comme c'est la dernière de l'année, on a essayé de faire un quatrième sujet parce que vous allez nous manquer pendant quasiment 2 mois, même si vous n'êtes pas à l'abri d'une stream team spéciale pour un transfert fou comme Messi l'année dernière, voilà. Mais a priori, on sera pas tout de suite là avec vous, donc on va vous faire un quatrième sujet. Et on a eu envie de parler, de se pencher sur ce qui va se passer au mois de novembre, la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et parler de la petite nouveauté qu'on a apprise hier, qui n'a pas surpris grand monde, c'est-à-dire que les effectifs passeront de 23 à 26. Alors, sur le papier, vu de loin, ça peut paraître un détail, sauf que ça n'en est pas un, sur plein de plans, et notamment sur les trois qui iront en plus au Mondial. Parce que 3, ce n'est pas rien, et on a eu envie évidemment de se pencher sur l'équipe de France pour déjà se poser la question, est-ce que c'est vraiment un avantage d'y aller à 26 au lieu d'y aller à 23? Et surtout, Cyril, à qui profite le crime tout simplement?
Oui, Maxime, on va déjà rappeler que c'est pas tant une nouveauté pour Didier Deschamps, puisque l'été dernier, évidemment, lors de l'Euro, les Bleus étaient à 26. C'était une première pour Didier Deschamps, puisque depuis le début de son mandat avec les Bleus, il n'avait fait que des listes à 23. Alors, il y avait eu des réservistes en 2014 et 2016, on s'en souvient, des suppléants, ça dépend de la terminologie employée, mais ça avait un petit peu perturbé les équilibres de la liste de Didier Deschamps. Moi, d'un point de vue plus théorique, Maxime, forcément, on se dit que ça offre plus d'options tactiques à Didier Deschamps. Ça laisse la place à des profils plus atypiques qui, peut-être dans une liste de 23, n'auraient pas passé le cut et qui, cette fois-ci, pourraient en être. Mais je sais que toi, qui étais sur le terrain lors de l'Euro l'année passée, vous avez vu avec Martin peut-être des choses un peu différentes. Et ne serait-ce que tout bêtement, 26, ce n'est pas 22. Donc, au moment de faire des oppositions, ça change quelque chose, quoi.
Oui, en fait, il n'y a pas de chiffre parfait parce que à 22, les Bleus de 98 avaient parfois des petits problèmes d'ego. Souvenez-vous de Bernard Lama. Personne n'est jamais content d'être remplaçant. Mais quand vous écoutez les sélectionneurs, ils ne sont pas forcément tous ravis de passer à 26. Luis Enrique avait envoyé 24 joueurs, je crois, à l'Euro et non pas 26. Alors, comme tu l'as dit, la France a un vivier de talent énorme. Donc sur le papier, on peut se dire, tant mieux, on a plus d'options. Sauf qu'avoir plus d'options, c'est parfois plus de problèmes, tout simplement. Il faut gérer des égos. On sait qu'avec Olivier Giroud, alors on parlera tout à l'heure des joueurs que ça peut sauver, entre guillemets. Olivier Giroud est dans une caste à part, par exemple, parce que lui, on sait que le problème n'est pas tant d'être le 23e, le 24e, le 25e. Le problème, c'est de ne pas être dans les 11. Donc voilà, donc ça c'est autre chose. À l'Euro, c'était un bon exemple. Alors il y avait une petite différence à l'Euro, c'est que là, au moins l'IFAB s'y est pris différemment. Ils ont changé les lois du jeu. Et sur le banc de touche, il y a le droit d'avoir 15 remplaçants maintenant. Ce qui veut dire que les 26 sont potentiellement intégrés pour un match et tous peuvent jouer. Mais nous, on voyait très bien l'entraînement il y a un an de Budapest à Munich et où vous voulez. c'est que quand vous faites des oppositions, alors quand vous avez des blessés, c'est pratique parce que vous remplissez l'opposition, mais quand il n'y a pas de blessés, vous avez quatre mecs qui s'amusent à s'envoyer la balle. Moi, j'ai souvenir de Digne qui fait des grandes transversales pour Dubois, Dubois qui fait des grandes transversales pour Digne, et des types qui finalement sont là sans être vraiment là. Ouais. Donc, c'est compliqué parce qu'il faut aussi gérer ces caractères-là. Et typiquement, quand on se demande, Ben Yedder, il est là, ça ne fonctionne pas, bah, je pense qu'un Ben Yedder dans le groupe, c'est quelqu'un qui va accepter plus facilement cette position-là et qui va faire moins de remue-ménage. Mais encore une fois, je vais vous donner par l'absurde l'exemple de 2018. Il n'y a que 23 joueurs. L'équipe ouais. de France joue à 21 finalement parce que Mendy et Sidibé, ils sont blessés. Et elle joue même à 13 finalement parce que son équipe, c'est toujours la même à partir, du premier, enfin, à partir des 8e, on va dire, à part en quart où Matuidi est suspendu ou Tolisso rentre. Et en fait, c'est une équipe de France qui va gagner quasiment à 11 mais avec un groupe solide derrière. Et peut-être que d'avoir un groupe un peu plus resserré, eh ben, c'était pas plus mal parce que vous créez des problèmes en moins. 2000, l'euro, la France gagne l'euro, Trezeguet qui est remplaçant pendant tout l'euro, qui le vit très mal. Il faut gérer ces cas-là. Bah, potentiellement, par l'absurde, quand vous avez 3 joueurs en plus, c'est 3 cas de plus à gérer. Et on l'a vu à l'euro dernier, même s'il y a eu beaucoup de blessés, ça n'a pas rangé les affaires. Donc vous soyez 22, vous soyez 23, vous soyez 26, il y a juste une clé, c'est de bien réussir sa liste. Voilà. Et ça peut être un souci, mais ça peut être aussi une chance, Cyril, ouais. pour certains, qui sont peut-être aujourd'hui, notamment après le dernier rassemblement, très, 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 très borderline, mais qui pourraient trouver leur place finalement grâce à cette évolution de la liste.
Ouais, y a un nom qui sort du lot, Maxime, et on en parlait lors du bilan de cette Ligue des Nations, c'est évidemment Jonathan Clauss. Parce que Jonathan Clauss, de par sa position atypique de piston, avec une liste à 26, il a quand même beaucoup plus de chances d'y être parce que ça offre la possibilité à Didier Deschamps de prendre un défenseur ou un latéral droit en plus. Donc, disons qu'il est, il y a plus de place pour lui parce qu'il y a plus de place pour faire des changements tactiques. Et donc, ce fameux piston droit, a priori, Jonathan Clauss ne sera pas titulaire à la Coupe du Monde pour les Bleus, sauf énorme surprise. Mais il y a de plus en plus de chances qu'il y soit de par ce passage à 26. Donc, son cas est particulier. Il y a beaucoup de joueurs en fait qui sont un petit peu à la jonction de cette liste et qu'on a vu en juin qui pourraient bénéficier de ça. Moi, je pense aussi à un Matteo Guendouzi. On sait que si tout le monde est là au milieu de terrain, ça va être peut-être plus compliqué de se faire une place. Mais si on est 26, bah, peut-être qu'un Guendouzi, voire un Camavinga, bah, ils ont fatalement plus de chances d'y être. Pareil pour Moussa Diaby sur les côtés. Et puis, il y a tous les absents, ceux qu'on n'a pas vus depuis quelques temps en bleu, mais qui, à la faveur d'un début de saison réussi, pourraient faire leur apparition. Un Ousmane Dembélé, un Anthony Martial, des joueurs un peu polyvalents qui peuvent jouer à droite, à gauche, devant. Bah, dans cette liste à 26, il pourrait y avoir une logique parce qu'on n'est plus uniquement sur du poste pour poste et donc trouver les 11, puis les 11 remplaçants, mais on est aussi sur des joueurs et des positions qui peuvent changer en fonction des systèmes. Et en cela, Dembélé ou Martial, par leur polyvalence offensive, peuvent être des solutions pour Dédé.
Ouais, tout à fait, parce que comme tu le dis, quand il y avait 22 joueurs, 23 dans une liste, en gros, c'était du poste pour poste. On a un arrière-droit, on prend son remplaçant, etc. Hormis rares exceptions, notamment Blanc en 2012, qui emmène que 3 centraux, alors qu'il en faut 4 potentiellement, c'était comme ça. Là, ce qui est intéressant, en fait, humainement, je ne suis pas certain que ça soit vu comme un avantage sur Deschamps, mais tactiquement, ça change beaucoup de choses, parce que on l'a vu, il essaie d'installer un 3-5-2. Il n'a pas pu très bien l'utiliser, le maximiser avec ce qui s'est passé durant le rassemblement de juin. Donc il est revenu à 4 derrière, donc il n'avait pas forcément les joueurs. Et là, ce serait quasiment de faire, alors c'est pas du football américain, mais quasiment des escouades spéciales. C'est-à-dire que vous prenez un joueur comme Jonathan Clauss qui n'a aucun avenir dans un 4-4-2. En revanche, si vous sortez le 3-5-2, vous savez que vous l'avez à droite potentiellement parce qu'il est ultra spécialiste du poste. Alors, on n'est pas comme dans le football américain. C'est pas un quarterback, c'est pas un punter. Mais au moins, vous avez des joueurs très spécifiques. Et ça, je pense que dans la réflexion de Deschamps, ça rentrera en ligne de compte. Autre chose qui peut être intéressant, c'est il y a deux choses pour moi sur les profils à aller chercher. C'est des joueurs qu'on n'a plus vus depuis un certain temps qui potentiellement se retrouvent une chance. Je pensais notamment à un Marcus Thuram qui avait éclos en novembre 2020, qui était là à l'Euro, qui est dans une impasse depuis de nombreux mois, mais qui, grâce aux 3 mois qui viennent en début de saison, pourrait peut-être se retaper. Et vu qu'il a ce vécu avec l'équipe de France, bah, ça lui donne un petit avantage pour les autres. Et autre chose aussi, la particularité de cette Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde avec une semaine de préparation. On sait qu'il y a 8 ans, c'était 30 jours. Il y a 4 ans, ça devait être 20 jours. Et là, on est à une semaine. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire, Bah, qu'il y aura peut-être des risques à prendre, simplement. On connaît l'état physique de nos milieux de terrain qui n'est pas toujours optimal, comme Pogba et Kanté. On croise les doigts pour qu'ils soient au niveau au moment opportun. Mais peut-être que là, Deschamps pourra se dire, écoute, tu viens avec nous, on n'est pas sûr, mais tu as une place pour toi et ça ne mange pas, entre guillemets, cette place dans les 23. Donc je pense que tactiquement et stratégiquement, ça peut aider. Humainement, j'ai plus de doutes parce que, encore une fois, ça fait 15 remplaçants à gérer au lieu de 12.
Et ça peut permettre une grosse surprise ou vraiment le joueur ouais. inattendu. Si sur les 3 mois qui mènent à la Coupe du Monde, il y a un joueur français que personne n'a vu venir mais qui éclate tous les records et qui débute, bah, peut-être que Didier Deschamps peut se dire bah, là, j'ai un mois, donc mettons Griezmann n'est pas bien. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai moins de temps de préparation pour retaper mes joueurs. Donc, il faut que je prenne aussi des joueurs au sommet, au zénith de leur confiance. Et donc, il y aura peut-être plus de place à prendre avec ces 26-là. On rappellera une dernière chose, Maxime, et sur la constitution des listes, parce que Didier Deschamps, il colle surtout souvent à ses listes. En 2021, donc pour l'Euro, il y avait 9 défenseurs. 6 milieux, parmi ces 6 milieux, il y avait Thomas Lemar notamment, et 8 attaquants. Donc on peut être un peu sur une architecture de liste un peu similaire, notamment au milieu de terrain, où souvent c'est 5 milieux et un joueur qui peut jouer à ce milieu-là, mais le 5 milieu de terrain, c'est quelque chose qu'il a souvent, sur lequel il s'est souvent appuyé.
Ouais, d'autant plus que si c'était un 3-5-2, ça ressemblerait à ça. Donc oui, l'architecture elle ressemble, et puis de toute façon, il y a du monde derrière, il y a du monde devant, donc plus il y a de place, mieux c'est, même si. Encore une fois, c'est dans l'alchimie. C'est pour ça aussi qu'on parlait de Ben Yedder tout à l'heure. L'alchimie d'un groupe est hyper importante. C'est-à-dire que vous amenez 3 joueurs de plus, c'est 3 solutions, mais potentiellement 3 problèmes de plus. Donc, il faut faire gaffe à ce que ça ne soit pas justement problématique. La liste, on a un peu de temps quand même parce que c'est la semaine du 6 novembre a priori. Donc, ça, c'est tard. Ça fait bizarre d'ailleurs de dire ça, qu'on va avoir une liste de 26. Il n'y a rien qui va. Coupe du monde en hiver, liste de 26 et liste en novembre. Voilà. Mais bon, on prendra quand même une Coupe du Monde, c'est toujours sympa.
Toujours sympa, et évidemment, Maxime.
Et ça nous permet de siffler en plus, de souffler cet été, pour le coup,
c'est
va siffler
vrai,
aussi.
Exactement. Mais je sens que tu veux siffler quand même cet été.
Ouais.
Tu auras le droit, Maxime. Maxime, le FC Stream Team sera évidemment là au rendez-vous en novembre, en décembre, pour suivre les Bleus et pour suivre cette Coupe du Monde. D'ici là, je sens que tu as besoin de repos, Maxime, un petit peu, quand même.
C'est les cernes.
Martin est parti en repos anticipé, qui n'est pas vraiment du repos, on peut le dire.
Ouais, mais
malgré
bon, tranquille
tout,
quand même.
Il vous retrouvera à la rentrée, mais en pleine forme, vous vous en doutez. C'était donc le dernier numéro du FC Stream Team. Merci à tous pour votre fidélité tout au long de l'année. Merci à vous, Maxime et Martin, les titulaires du poste. Mais tu as parlé de l'alchimie.
Voilà. Il n'y a pas de titulaire.
Il y a eu Adrien Io, moi-même, Julien Pereira qui sont également venus, Arthur Merle aussi.
Ouais, Marco Popovic pour les visuels qui est venu. Exactement. Quand Quentin Guichard n'était pas là. En fait, c'est une énorme émission avec une énorme machine
derrière.
C'est une
liste de 26.
Vous imaginez pas. Il y a un petit rayon là qui est à la réalisation, qui est en train de faire des gestes dans tous les sens, tac, 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 et avec les lumières, les vidéos. C'est une régie en fait. Vous ne voyez pas, mais elle est sur une régie où il y a 45 écrans et 7 caméras dans le studio. C'est complètement dingue.
Eh ben merci beaucoup, Maxime, pour cette nouvelle année du FC Stream Team. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Si vous êtes en manque d'émissions Eurosport cet été, rassurez-vous.
Ah oui, bah oui.
Tous les mercredis, on parlera Mercato. Dans Mercredi Mercato, il y aura Julien, il y aura Arthur. Martin va aussi revenir probablement. Donc,
ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle.
C'est pas une bonne nouvelle, non. Ça, c'est bon. Bah, c'est quand il faut, comme à l'entraînement, quand il faut combler les trous, voilà, on prend ce qu'il y a, quoi. Mais merci encore de votre fidélité et on vous donne rendez-vous l'année prochaine, ou en tout cas à la rentrée.
À la rentrée, ouais, parce que l'année prochaine, ça se fait loin quand même. À la rentrée.
Exactement.
Salut!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.